n'ai jamais joué rugby dans ta vie. Ferme ta gueule.
Bonjour à vous, bienvenue dans ce deuxième numéro de 15 bras, 15 jambes, toujours présenté par l'inénarrable Gandalf 81. Donc, pour ce numéro, nous allons revenir sur les sorties estivales du rugby, parce que la planète Ovalie n'arrête pas de tourner quand le top 14 est à l'arrêt. Donc nous allons bien évidemment parler de préparation de la Coupe du Monde, et nous reviendrons d'ailleurs sur la semaine de la Coupe du Monde, le 19 septembre. Nous allons donc commencer par la catégorie monde avec un contenu qui s'annonce massif, vous allez le voir tout de suite.
On est content d'avoir battu cette équipe de Toulon, ils nous ont pas respecté, ils ont mis une équipe en bois, on a montré qu'on était capable de les battre.
Pour démarrer cette catégorie monde, nous allons parler du championnat qui s'est fini juste après le précédent podcast, à savoir le Super Rugby. Donc le Super Rugby est aussi appelé Super 15, parce qu'il comporte 15 équipes. Ces 15 équipes sont réparties par 5 et donc par 3 conférences. Ces 3 conférences sont l'Australie, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Dans chaque conférence, chaque équipe doit faire un match aller-retour contre les autres équipes de sa propre conférence. Donc, les équipes d'Afrique du Sud font des matchs aller-retour contre les équipes d'Afrique du Sud, et ainsi qu'un match contre les équipes des autres conférences. Un seul match, donc un match aller, sans retour. Alors, je ne sais pas comment ces matchs sont décidés, par exemple, si c'est à domicile ou à l'extérieur. Ça, c'est encore un peu déjà compliqué, et c'est encore plus compliqué ça. Mais donc, ça fait un total de 18 matchs. Arrivé à la fin de ces 18 matchs, les deux équipes avec les meilleurs totaux sont directement qualifiées. Et on passe par un tour qualificatif, un tour de play-off. Donc, pour ce tour de play-off, nous avons eu les Islanders de Dunedin en Nouvelle-Zélande contre les Chiefs, aussi en Nouvelle-Zélande, de l'équipe de la ville d'Hamilton. Donc, victoire des Islanders 24 à 14 contre les Chiefs. Ensuite, le second match des tours qualificatifs, c'était les Stormers du Cap en Afrique du Sud contre les Brumbies de Canberra en Australie. Cette fois, c'est les Brumbies qui l'ont remporté sur le score de 39 à 19. Donc le score du match était Stormers 19 et Brumbies 39. Après, on passe donc en demi. Alors, pour les demi, on avait les Waratahs de Sydney en Australie contre donc les Islanders de Dunedin. 17 à 35, victoire des Islanders. Et après, on a eu les Hurricanes. Bon, ça, on n'en a pas parlé. C'est l'équipe de Wellington contre les Brumbies, donc de Canberra en Australie. Et c'est les Hurricanes qui l'ont emporté 29 à 9. Et pour la finale donc très Super 15 dans son genre, donc le Super 15 n'a pas tout à fait le même arbitrage que notre top 14, donc beaucoup plus de jeux, les rucks sont bien moins, tout ce qui est phase de ruck, phase statique, les arbitres sont plus cool sur ce genre de phase, donc on a plus de jeux, généralement les phases statiques servent pour plus de lancement de jeu que pour récupérer des points, comme chez nous. Chaque mêlée, vaut presque une pénalité. Donc la finale s'est donc jouée entre les Hurricanes et les Islanders, donc deux équipes néo-zélandaises, et c'est sur le score de 14 à 21 que les Islanders l'ont remporté. Islanders n'était une équipe pas forcément qui n'était pas là pour gagner. Pas le bon mot. Qui n'était pas la favorite, voilà. Qui avec un coach un petit peu inconnu. Bon ben voilà, ils sont arrivés après une finale assez relevée quand même à gagner ce Super Rugby. Et pour information, le Super Rugby passe en Super 18 pour l'année 2016. Voilà. Je crois qu'ils rajoutent même une équipe d'Argentine ou plusieurs. Donc c'est un petit peu plus ou c'est peut-être pour plus tard. Donc, en tout cas, je vous laisse méditer là-dessus. Donc, on passe sur le tournoi des Six Nations de l'hémisphère sud. Donc, c'est le Rugby Championship ou le Four Nations. Cette année qui est un petit peu beaucoup amputée, cause Coupe du Monde. Donc, c'est le Four Nations, comme le dit son nom, il y a quatre équipes. Donc on a l'Australie, l'Argentine, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Donc pour la première journée, nous avons eu Australie, Afrique du Sud, 24 à 20, victoire australienne. La Nouvelle-Zélande contre l'Argentine, 39 à 19. Deuxième journée, nous avons eu Argentine, Australie, 9 à 34. Et ensuite, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, 20-27. Vous voyez, cette journée, déjà, que des victoires à l'extérieur. Et pour la dernière journée, dont nous avons eu les deux vainqueurs contre les deux perdants. C'est fini comme ça. Donc, pour la troisième journée, nous avons eu l'Australie contre la Nouvelle-Zélande, 27 à 19. Et Afrique du Sud, Argentine, donc, 25 à 37. Classement final. Donc, l'Australie a remporté tous ses matchs de cette version tronquée du Rugby Championship, dont ça fait 13 points. Nouvelle-Zélande, 9. Argentine, 5. Et bon dernier, l'Afrique du Sud, 2 points. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette édition? Alors, déjà, on peut retenir qu'il y a eu un petit exploit avec la victoire de l'Australie sur la Nouvelle-Zélande. À noter que sur les 4 dernières années, la Nouvelle-Zélande n'a perdu que 2 ou 3 matchs pour prouver le niveau dans lequel ils évoluent. Donc, on peut vraiment parler d'un exploit. Et on peut aussi parler de cette dernière journée a été riche en émotions, de la victoire de l'Argentine sur le sol sud-africain. C'est assez rare pour être souligné. Déjà, l'Argentine avait battu, je crois, l'Australie, ou avait fait match nul contre l'Afrique du Sud. Elle n'avait pas fait des gros scores depuis, ça fait 2-3 ans qu'ils sont intégrés au Rugby Championship, donc ils n'avaient pas fait de gros scores. Donc cette victoire est porteuse d'espoir pour les Argentins. Donc on peut noter que l'Australie, finalement, a fini un beau vainqueur, en se restructurant bien avec leur tout nouveau coach, une toute nouvelle vision de jeu, mais ça j'en reparlerai pour la Coupe du Monde. Donc maintenant nous allons passer à, attention, alors là aussi c'est un petit championnat inconnu, donc c'est le Pacific Nation Cup. Alors le Pacific Nation Cup, c'est un championnat des, pas forcément que des nations du Pacifique, parce que ça va un petit peu plus loin. Donc on a dedans Fidji, Samoa, Tonga, qui sont les nations les plus connues du Pacifique, mais on a aussi le Japon, les USA et le Canada. Donc tout ceci est réparti en deux poules. Donc on a la poule du Japon. Cette année on avait la poule du Japon, Samoa, Tonga et Fidji, USA, Canada, qui se jouait aux États-Unis, aux Fidji et au Canada, avec une finale au Canada. Donc pour la première journée, nous avons eu les Fidji contre les Tonga, équipe qui ont l'habitude de se rencontrer, dont les Fidji l'ont remporté 30 à 22. Après, nous avons eu USA Samoa, donc 16 à 21, victoire samoane. Après, nous avons eu Canada Japon, 6-20. Deuxième journée, les USA ont rencontré le Japon, victoire des Américains, 23-18. Nous avons eu ensuite le Canada contre les Tonga, 18-28. Et enfin, nous avons eu Fidji, Samoa, score pour une fois, match nul. Ensuite, pour la dernière journée, nous avons eu Canada, Samoa, 20-21, score très étriqué. Fidji, Japon, 27-22 et USA, Tonga, 19-33. Et enfin, nous avons eu une phase finale, donc les meilleures équipes, celles qui avaient le plus de victoires se sont rencontrées, et celles qui avaient le moins aussi. Donc nous avons eu Fidji, Samoa, gros match, 39-29, Tonga, Japon, 31-20, et les bons derniers, USA, Canada, 15-13. Donc, nous avons eu les Fidji qui sont vainqueurs au goal average. Ensuite, les Samoa, les deux sont à 11 points. Ensuite, Tonga, 8 points. Japon, USA, même score de points. Traité au goal average ou au point terrain, je pense. Japon, USA, 6 points. Et le Canada, bon dernier, avec un petit point. Nous reviendrons d'ailleurs sur les performances du Canada un petit peu plus tard. Et d'ailleurs, en parlant du Canada, nous allons passer aussi à un championnat que je ne connaissais pas, le Canadian Rugby Championship. Donc c'est le top 14 du Canada, avec, attention, roulement de tambour, 4 équipes. Formidable, on va très loin avec ça. Donc, les quatre équipes sont les Prairie Wolf Pack de Calgary. Nous avons ensuite les Ontario Blues de Toronto. Après, nous avons les Atlantic Rocks de St. John's. St. John's, pardon. C'est mieux quand on a l'accent. Et après, nous avons les British Columbia Bears de Vancouver. Alors, c'est un championnat qui a été créé en... J'ai un championnat qui a été créé en 2009. Et pour l'instant, ça fait pas trop avancer le niveau du rugby canadien. On y reviendra, comme j'ai dit, encore plus. On y reviendra plus tard. Mais le rugby canadien, c'est pas trop ça en ce moment. Donc, en fait, c'est des matchs. Voilà, les retours et la finale s'est jouée entre les Prairie Wolf Pack et les Ontario Blues. C'est les Prairie Wolf Pack qui l'ont remporté 33 à 25. Maintenant, nous allons passer encore une fois à un championnat méconnu, l'Oceania Rugby Cup. Alors ça, c'est les équipes vraiment de même pas de second niveau, de niveau très très loin. Donc c'est à se dispute entre les îles Salomon, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Haïti et les Samoa américaines. Parce que les Samoa sont découpés en deux. Donc nous avons eu les îles Salomon contre les Samoa américaines 15 à 30, la Papouasie-Nouvelle-Guinée contre Tahiti 32 à 10, Tahiti contre les îles Salomon 36 à 12, la Papouasie-Nouvelle-Guinée contre les Samoa américaines 36 à 22, les Samoa américaines contre Tahiti 8 à 20, et la Papouasie-Nouvelle-Guinée contre les îles Salomon branlée 28 à 19. Alors j'ai pas bien compris qui c'est qui avait gagné, je pense que c'est ça va être la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou Samoa, je sais pas. Bref, vous chercherez, hein. Je suis pas là non plus pour vous mâcher tout le boulot. Donc, maintenant on va passer au gros du morceau, avant de passer au dossier. Forcément, on est juste à l'année Coupe du Monde, les équipes ont besoin de préparation. Après avoir fait du white bike comme des cons pendant des mois, et après avoir pas vu un putain de ballon, eh bien les équipes elles ont fini par s'entraîner et il y a eu énormément de matchs. Donc nous allons commencer par déjà. Nous allons commencer bêtement par le début. Hein. Ça se dit pas, mais bon, c'est pas grave. Donc nous avons Afrique du Sud contre 15 mondial. Alors le 15 mondial, c'est pareil, c'est des. Je sais même pas qui c'est qui gère cette équipe. Je crois que c'est l'IRB ou le World Rugby. Bon, c'est un peu. Voilà, c'est sur le principe, de toute façon, des Barbarians, c'est des joueurs du monde qui se réunissent. Qui sont sélectionnés par un sélectionneur, tout bêtement, par un entraîneur, et qui font quelques matchs, voilà. Donc l'Afrique du Sud l'a remporté 46 à 10. A noter que dans le 15 mondial, il y avait Makis Botha. Après, nous avons eu Samoa, Nouvelle-Zélande, 16 à 25. Alors ce match est joué Ferrare au Samoa, voilà, parce qu'il n'y a pas de gros stade là-bas, parce que c'est vraiment des tout petits îlots. Les stats, ça n'existe pas là. Après, nous avons eu Fidji contre les Maori All Blacks. Donc, c'est les All Blacks. Alors, c'est des All Blacks un peu comme France A. Donc, c'est les joueurs. C'est les joueurs All Blacks qui sont Maori. Mais voilà, c'est un niveau intermédiaire par rapport aux All Blacks normaux. Donc, Fidji, Maori All Blacks, 26 à 27. Ensuite, nous avons eu Namibie-Russie, 39 à 19. Match retour Namibie-Russie, 45 à 5. Après, on a eu d'autres matchs pour des équipes qui ne sont pas en Coupe du Monde. Nous avons eu Kenya-Espagne, 36-27. Vous voyez le gros niveau du Kenya. Le Kenya est une très bonne équipe, de toute façon, un rugby à 7. Je vous laisse regarder conférence rugby à 7. Vous verrez qu'il se passe pas mal de choses et la France galère un peu là-dessus, quoi. Après, nous avons eu Pays de Galles, Irlande, 21-35, donc victoire à l'extérieur de l'Irlande. Japon contre le 15 mondial, 20-45. Les Yorkshire Carnegie, c'est très compliqué à dire, Carnegie contre la Roumanie, 10-10. Nouvelle-Zélande, Australie, 41-13. Donc la Nouvelle-Zélande s'est vengée de la victoire de la défaite contre l'Australie, et l'Afrique du Sud a fait de même en Argentine, l'Argentine ayant perdu 12 à 26 contre l'Afrique du Sud. Ensuite, nous avons eu un match, un très bon match que j'ai eu l'occasion de regarder, Argentine, Irlande, Écosse 28 à 22, Angleterre, France 19-14, Édimbourg Rugby, Roumanie 31-19, Édimbourg est une bonne équipe du de championnat écossais, Japon, Uruguay 30 à 8, Canada, USA 23 à 41, France, Angleterre 25-20, Italie, Écosse 12-16, Nottingham, Tonga 14-69, les Newcastle Falcons, c'était l'ancienne équipe, c'est une équipe anglaise qui, avec, qui comptait à une époque très lointaine, quand il était longtemps blessé, Johnny Wilkinson. Alors donc, les Newcastle Falcons, Géorgie 27-7, Japon, Uruguay 40 à 0, bon allez, ils sont repartis Fanny, Irlande, Pays de Galles 10 à 16, Barbarians anglais, Samoa, non les Barbarians anglais, voilà, c'est les meilleurs joueurs du championnat anglais si ma mémoire est bonne, bon c'est à peu près le même principe que les Barbarians français quoi. Barbarians anglais, Samoa, donc 27 à 24, Écosse 48, Italie 7, donc une branlée pour les Italiens qui ont voulu envoyer du jeu mais se sont fait exploser en contre. Après nous avons Canada, enfin une victoire du Canada contre les Glasgow Warriors, bon c'était peut-être l'équipe B des Glasgow Warriors mais c'est une assez bonne équipe de, du championnat écossais, Glasgow. Nous avons donc 19 à 12, USA contre les Harlequins, non ça c'est une équipe du championnat anglais, donc USA ont gagné 19, non même pas, les USA ont perdu 19 à 24 contre les Harlequins. Et donc maintenant Canada, Géorgie, 16 à 15, à force une victoire canadienne, il y en aura pas, hein, beaucoup plus, ne vous inquiétez pas. Angleterre, Irlande, 21 à 13, on pourra noter qu'un pilier a fini à l'arrière pour l'Irlande. Leicester Tiger, équipe équipe d'Angleterre contre l'Argentine, 44-55, donc contre l'Argentine. Les Wasps, équipe anglaise contre les Samoa, 19-25. Le Japon contre la Géorgie, 13-10. Pays de Galles, Italie, score finalement très étriqué, 23-19. Et les Italiens qui ont bien manœuvré, ces Gallois. La Roumanie contre les Tonga, 16-21, la France contre l'Écosse, match très pénible, 19-16, les États-Unis contre l'Australie, 10 à 47, le Canada contre les Fidji, 18-47, et la sélection basque, je sais pas ce que c'est, contre l'Uruguay, 19-41. Qu'est-ce qu'on pourra noter? Eh bien, déjà, premièrement, pour les équipes de l'hémisphère nord, on sent quand même que c'est un petit peu le gros bordel. Donc c'est un petit peu... tout le monde peut battre tout le monde, on l'a vu, il y a eu des défaites à l'extérieur, enfin des défaites à la maison. L'Irlande qui peut battre tout le monde, mais finalement se fait battre à la maison. On voit que c'est un petit peu olé-olé, quoi. Même pour... Pourtant on aime dire que l'équipe de France va mal, on ne peut pas dire que les autres équipes ça va mieux. Et ça permet quand même, ça permettra d'avoir une grosse incertitude sur la Coupe du Monde, étant donné que certaines équipes se sont quand même bien accrochées, par exemple Roumanie-Tonga, le score était finalement assez serré. À voir si les deux équipes sur le terrain étaient les équipes type ou quasi-type, mais on voit quand même qu'il y a pas mal, le niveau se resserre et reste très incertain. Et maintenant, on va commencer un petit peu à parler par les Coupes du Monde, par les préparations. Eh bien, on y va.
L'impact moral français est total. Les Blacks sont à genoux. Ils ont le moral sur les couilles. Ils n'en peuvent plus. Les Français sont transcendants.
Donc, nous allons attaquer maintenant le dossier de ce podcast, à savoir la présentation de la Coupe du Monde. Juste avant de commencer, nous allons faire un petit rappel sur la Coupe du Monde des moins de 20 ans qui s'est passée cette année, qui se passe chaque année, de toute façon, pour les moins de 20 ans. Alors, comme vainqueur, nous avons eu la Nouvelle-Zélande, deuxième, l'Angleterre, troisième l'Afrique du Sud, quatrième la France et cinquième l'Australie. Donc c'est une compétition où la France n'a pas fait pour l'instant de gros scores, elle a toujours du mal, enfin de toute façon comme la Coupe du Monde des seniors. Mais nous allons passer maintenant à la Coupe du Monde. Donc, Pour rappel, la Coupe du Monde de cette année se passe en Angleterre. Elle est composée de 20 équipes qui sont divisées en 4 poules. Donc nous avons 12 qualifiés directs qui sont les 3 meilleures équipes de chaque poule de la Coupe du Monde précédente, donc de 2011, plus 8 barragistes. Ce qui fait, en comptant les phases finales, 48 matchs. Après, pour le comptage des points, on est sur à peu près le même comptage que pour la Coupe d'Europe, donc à savoir 4 points pour une victoire, bonus défensif pour le perdant avec un écart égal ou inférieur à 7 points, et ensuite nous avons le bonus offensif, il suffit juste de marquer 4 essais ou plus, donc pas besoin d'avoir un écart par rapport à l'adversaire. La plupart des équipes en sont à la 8e participation à leur Coupe du Monde, sauf les Fidji, Samoa, Tonga, Géorgie, Uruguay, USA, l'Afrique du Sud. Alors l'Afrique du Sud qui a été sacrée 2 fois, n'est qu'à sa 6e participation, et la Namibie. Donc nous allons commencer par la poule A, à savoir la poule de la mort. Juste avant, je vais faire un vrai faux rappel pour dire que je parlerai de l'équipe. Alors tout d'abord de l'équipe, de son classement à la précédente Coupe du Monde, celle de 2011, de son entraîneur en chef et d'une ou plusieurs stars ou joueurs à suivre. Donc nous allons commencer par l'Australie, qui a fini 3e en 2011, avec son entraîneur Michael Checa, qui est en fonction depuis un an, qui a fait pas mal d'efforts avec l'aide de Mario Ledesma, pardon, pour améliorer les avants australiens qui sont souvent en difficulté dans les secteurs statiques. Et si un joueur assure, je conseillerais de regarder Stephen Moore, le talonneur, qui risque de faire pas mal de dégâts si la méthode Ledesma est en marche. Après, nous avons l'Angleterre, donc le pays hôte de cette Coupe du Monde. Alors, ils ont perdu en quart de finale contre la France, quand la France est sortie les doigts du cul. Le coach, c'est Stuart Lancaster, qui a fait pas mal aussi, un très bon boulot, qui a essayé d'intégrer pas mal de jeunes et qui doit maintenant se débrouiller avec un réservoir de joueurs assez grand. Heureusement, il est aidé par les suspensions de ces joueurs qui décident de faire pas mal de conneries. Et si je ciblerais un joueur en particulier, ce serait Jonathan Joseph, qui est en sélection depuis un an ou deux, qui a pas mal brillé lors du tout dernier tournoi des 6 nations et qui est un 3/4 centre, si ma mémoire est 3/4 centre, de grande qualité. Après, nous avons le pays de Galles, qui a fini 4e. Alors, toujours mené par Warren Gatland. Pareil, voilà. Donc ça fait partie, par contre, des équipes qui bivotent un peu, qui a du mal à enchaîner. Bon, ça, j'en avais déjà parlé, de toute façon, lors du compte rendu de la dernière Coupe d'Europe. Et si je ciblerais un joueur, alors je crois qu'il est revenu de blessure, c'est Sanson Lee, le pilier, qui est un joueur très intéressant et très mobile. Après, nous avons les Fidji, alors qu'ils ont été éliminés en poule la dernière fois, avec comme coach John McKee. Alors si je ciblerai deux joueurs, c'est deux joueurs qui jouent dans le championnat français. Nous avons Levani Botia, qui joue au centre à La Rochelle. Joueur très impulsif, très très bon joueur, très bonne capacité de relance. Malheureusement, il aime bien plaquer à la carotide, comme tous ses amis fidjiens. Donc de temps en temps, un petit carton jaune ou rouge traîne par là. Et après, nous avons Taleboula, c'est le joueur de l'UBB, excellent finisseur. Pareil, voilà, c'est un joueur, très bon joueur à suivre. Après, nous avons la petite équipe de cette poule, à savoir l'Uruguay, qui n'était pas revenu en Coupe du Monde depuis 2003. Alors, l'entraîneur, c'est Pablo Lemoine. Et un joueur à suivre, ce serait Augustin Ormaxia, c'est du Radia, voilà, qui joue au Stade Montois en Pro D2. Alors maintenant, nous allons passer à la poule B. Première équipe, l'Afrique du Sud, qui a perdu en quart à la dernière Coupe du Monde. Alors, l'entraîneur, c'est Eneke Meyer, pas facile à dire. Et le joueur à suivre, c'est Dwayne Vermeulen, le futur joueur du RCT, le numéro 8 très puissant, à l'image de pas mal de joueurs sud-africains, donc du genre à marcher sur les couilles des autres, comme certains Bakis Bota, mais chut, faut pas le dire, sinon ils vont le casser la gueule. Donc moi je miserai pas mal sur l'Afrique du Sud pour cette Coupe du Monde. Ils ont été pas mal en ballotage au dernier Rugby Championship, à voir ce qu'ils vont faire, mais ils ont pas mal de blessés aussi, à voir ce qu'ils vont faire. Après, nous avons encore une fois une équipe des découpeurs de tête, les Samoa, qui ont été éliminés en poule, pardon, la dernière Coupe du Monde. L'entraîneur c'est Stephen Bentham, Et si un joueur à suivre, c'est le talonneur de l'UBB, Olé Avei. Un excellent joueur, excellent talonneur, très bon sur les phases statiques, mais comme la plupart des joueurs d'Étil, le joueur hyper mobile. Après, nous avons l'Écosse, qui a été éliminé en poule, avec Verne Cotter, l'ancien entraîneur de Clermont, en fonction depuis un ou deux ans. Et le joueur à suivre est l'excellent, moi je l'aime beaucoup, c'est Stuart Hogg, l'arrière de l'équipe d'Écosse. Excellent joueur, mais malheureusement, je crois qu'il était blessé, à voir si sa participation n'est pas remise en cause à cette Coupe du Monde, mais c'est un excellent joueur qui amène pas mal de punch à cette équipe écossaise. Après, nous avons le Japon, qui a été éliminé en poule, qui était dans la poule de l'équipe de France la fois dernière. Alors, le coach, c'est toujours le même, qui a décidé d'arrêter normalement après la Coupe du Monde, c'est Eddie Jones. Et si un joueur à suivre, c'est Fumiaki Tanaka, qui joue en Super Rugby, si ma mémoire est bonne. Après, nous avons alors une équipe qui n'a pas trop évolué et qui a perdu un de ses joueurs clés sur problème de comportement, c'est les États-Unis. Alors, voilà, les États-Unis qui avaient été éliminés en poule. L'entraîneur Mike Tolkien. Alors cette fois-ci je recommanderai deux joueurs à suivre, dont Scott Lavalla qui jouait au Stade Français et qui a décidé d'arrêter sa carrière après la Coupe du Monde pour devenir Marines. Voilà. Et pourtant c'est un très bon joueur, comme quoi des fois on comprend pas tout. Mais voilà, on lui souhaite bon courage pour la suite. Et après voilà, un joueur peu connu, c'est Blaine Scully qui joue trois quarts polyvalent au Cardiff Blues. Après, maintenant, nous passons à la poule C, donc nous avons les champions du monde en titre, à savoir la Nouvelle-Zélande. Alors, entraîné par Steve Hansen, qui a pris la suite de Graham Henry, et je citerai pas cette fois un seul joueur, mais deux, à savoir des deuxièmes lignes d'excellente qualité, donc Brody Retallick et Sam Whitelock. Alors, Retallick, il est adoubé comme, à 24 ou 25 ans comme le meilleur seconde ligne, deuxième ligne du monde pour l'instant. Excellent joueur, excellent relanceur, et nous avons Sam Whitelock qui est aussi extrêmement beau, mais qui lui préfère les tâches un peu plus obscures. Pas la bagarre, mais un petit peu quand même. Donc nous avons après l'Argentine, éliminée en quart à la Coupe du Monde précédente. Alors l'Argentine, avec son coach qui a fait un peu la polémique, Daniel Urquade, parce qu'il a un peu viré les anciens de cette équipe, comme Patricio Albacete, qui du coup joue en top 14, qui n'a pas été sélectionné. Thomas Lavanini. Alors, c'est le joueur à suivre dans cette équipe. Bon joueur aussi. Après, nous avons les Tonga. Alors, on rappellera que les Tonga nous avaient humiliés à la dernière Coupe du Monde. On rappellera qui s'en voudra. Donc, ils avaient été, eux, éliminés en poule. Coach Mana Otaï. Et un joueur à suivre, Opeti Fonoa, qui a pas mal rodé aussi en top 14. Après, nous avons la Géorgie, éliminée en poule. Coach Milton Haig. Un joueur à suivre, c'est Mikalei Niarashvili de Montpellier, donc c'est un premier ligne aussi de beau gabarit, voilà, beau poulet. Après nous avons la Namibie, voilà, c'est le parrain pauvre de l'Afrique du Sud, qui a été éliminé en poule, coach Phil Davis, et si un joueur que je recommande de suivre, enfin de suivre pas de trop près, c'est Jack Berger, l'immense plaqueur des Saracens, voilà. Et maintenant nous passons à la poule D, donc nous avons la France, qui est finaliste très malheureux. Non, j'ai jamais vu à ce niveau, mais c'est pas grave. Donc, mené par Philippe Saint-André, avec un score de 40% de victoire, magnifique. Et moi, si je miserais sur un joueur, je miserais sur Guillaume Guirado, voilà, qui me paraît dans une très bonne disposition. Après, nous avons... Moi, l'équipe qui me fait le plus peur, c'est l'Irlande, qui a été éliminée en quart. Alors, mené par Joe Schmidt, qui avait déjà fait des miracles à Clermont, et qui continue à faire des miracles avec un réservoir pas folichon en Irlande. Et après, nous avons Kianelli, le pilier. Voilà, un beau client aussi, un très beau poulet. Après, nous avons l'Italie, qui avait été éliminée en poule, menée par l'ancien Perpignanais Jacques Brunel. Et si je citerai un joueur, je citerai l'inamovible, l'inoxydable, le meilleur, le plus beau, Sergio Parisse, sans qui je pense que cette équipe ne ferait absolument pas les mêmes résultats. D'ailleurs, ça se voit au Stade Français quand il n'est pas là. C'est vraiment je pense que c'est le meilleur numéro 8 du monde. Je pense qu'il restera longtemps, parce qu'il est vraiment un très très grand joueur. Après, nous avons le Canada, qui avait été éliminé en poule, avec Kieran Cronley comme coach, et un joueur intéressant, c'est Jason Marshall, qui était à Agen, ou qui est à Agen encore. Bonjour. Et on finira toute la dernière équipe de cette Coupe du Monde, donc la Roumanie, éliminée en poule, coach Lain Owels, Et je citerai un joueur local, Eita Lazar de Castres. Voilà, c'est un avant. Donc, pour cette Coupe du Monde, voici la... c'était les présentations, voilà. Donc, je vous laisse regarder les scores, tout ça, l'évolution des scores. On fera, de toute façon, quand je ferai un podcast à la fin de la Coupe du Monde. Moi, si je devais miser sur une équipe, moi, je miserais quand même sur l'Irlande, qui, quand même si, un petit peu, cette année, a eu un petit peu plus de mal que les années précédentes pour, on l'a vu... ça s'est joué à pas grand-chose pour la victoire du tournoi Destination. Ça s'est vu aussi sur les matchs amicaux. Il a failli se faire avoir par l'Écosse, se faire avoir par le Pays de Galles, mais en même temps, quand même une belle équipe. Moi, je miserais l'Irlande. Après, on verra, parce que bon, c'est une équipe qui retombe dans ses magnifiques travers. Parce que c'est une équipe voilà, qui a déjà jamais battu la Nouvelle-Zélande. Donc c'est toujours compliqué de miser sur cette équipe. Mais moi, je l'aime bien. Voilà. Et après, si je devais miser sur une autre équipe, je miserais peut-être l'Afrique du Sud. Je pense qu'ils ont quand même une place... Ils sont déjà dans une poule qui peut le faire déjà. Donc je pense qu'ils peuvent aller loin. Et après, pour l'équipe de France, j'ai un petit peu des doutes. De toute façon, en 2011, même avec une équipe qui était un peu branlante, on est quand même arrivé en finale. Après avoir perdu contre les Tonga. Donc on sait jamais avec cette équipe. On peut passer à travers tout. Et pour le pays hôte, l'Angleterre, ils ont une bonne carte à jouer, mais je pense qu'ils vont user trop de force dans les matchs de poule pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir esquiver peut-être la Nouvelle-Zélande, parce que de toute façon, les matchs se passent en... le premier de A rencontre le second de B, et ainsi de suite. Donc c'est AB, AB, et CD, CD. C'est comme ça que ça se passe. Écoutez, je pense que j'en ai dit pas mal, je vous laisserai de toute façon regarder les matchs. La plupart sont diffusés... La plupart sont diffusés sur Canal, qui a récupéré les droits de TF1. TF1 a gardé les droits pour, de toute façon, les matchs de phase finale et pour les matchs de l'équipe de France et quelques matchs par-ci par-là, donc Australie, trucs comme Irlande, pas Australie-Irlande, Australie, des trucs comme ça. Donc, en espérant que cette Coupe du Monde sera prometteuse, en 2011, on a vu quelques surprises en voyant. On a bien vu la France balbutier son rugby après un match contre le Pays de Galles, après avoir été, qui était rapidement réduit à 14. Donc on peut être surpris de tout. Voilà. Donc maintenant, on va passer au championnat national le plus barrant, le plus beau, le top 14.
Destroyer, ça veut dire ratatiner, ça veut dire réduire à néant l'adversaire, ça veut dire le terrasser. Si on essaye de parler français, ça veut dire l'anéantir, quoi, et tout ça, en termes toulonnais, c'est destroyer.
Dernière partie de ce podcast, avec tout d'abord le top 14. Alors, juste avant la Coupe du Monde, le top 14 a pris quelques journées, il prendra une pause pendant un mois pour la Coupe du Monde. Donc on va commencer tout d'abord par la première journée. Donc, Toulon a été battu à domicile par le Racing Métro. Enfin, le Racing 92, qui a changé de nom. Ils ont perdu 22 à 27. Ensuite, La Rochelle a aussi perdu à domicile contre Clermont, 6 à 44. Bordeaux-Bègles a gagné à la maison, 19 à 16 contre Castres. Toulouse a gagné 24 à 7 contre Brive. Montpellier, 35. Oyonnax, 19. Grenoble, 38. Agen, 23. Et Paris, 34. 18. On notera pour cette journée la belle victoire du Racing sur le terrain de Toulon et aussi la très belle performance de Clermont. Les autres aussi, on pourra noter deux bonus offensifs pour Montpellier et Grenoble à la maison, qui s'ajoutent à celui de Clermont à l'extérieur. Seconde journée, Clermont-Grenoble 25-6, Agen-Toulouse 9-20, Oyonnax-Bordeaux-Bègles 37-19, Racing, La Rochelle, 20-19, Pau, Montpellier, 26-16, Brive, 22, Paris, 13, et Castres, 24, Toulon, 9. Alors c'est dans cette journée-là qu'il s'est joué le match, donc Pau-Montpellier qui a été émaillé par les propos racistes d'un supporter palois à l'ailier montpelliérain Nagusa. C'est pas très joli tout ça. Mais bon, en termes plus flatteurs, on pourra noter la performance d'Oyonnax sur sa pelouse, sur sa nouvelle pelouse en synthétique en plus. avec un beau bonus offensif contre l'équipe très joueuse de Bordeaux-Bègles. On notera aussi que Toulon continue à s'enfoncer à cette seconde journée qui a pris l'eau contre Castres. Et clairement, deuxième journée, deuxième bonus offensif. Troisième journée. Donc on a Oyonnax-Clermont 24-41. Grenoble 41, Pau 15, La Rochelle 21, Brive 18, 30 à 18 entre Agen et le Racing, Toulouse 37, Castres 20, Bordeaux-Bègles 22, Montpellier 24 et 13-20 entre Paris et Toulon. Donc Toulon qui va, pour cette journée-là, on pourra noter que Clermont ben, finit encore avec une fois le bonus offensif, donc sur 15 points possibles, 15 points pris. On notera aussi que Grenoble, qui a joué déjà contre les deux promus, a fait une belle, a fait quelque chose de pas mal avec déjà deux bonus offensifs. On notera ben, finalement, on notera aussi qu'à chaque journée, il y a à peu près, bon, c'est pas terrible, mais on notera au moins deux victoires à l'extérieur. Et après, on a vu bah, que, par exemple, donc maintenant, le top 14 va rentrer en pause pour la Coupe du Monde. Il reviendra à l'issue pour la cinquième journée, à la fin de la Coupe du Monde. Donc maintenant, nous allons passer à la Pro D2. Donc nous avons eu Albi-Bayonne 23-28, Lyon-Bourgoin 30-19, Béziers-Mont-de-Marsan 36-23, Colomiers-Montauban 25-20, Narbonne, Aix-en-Provence, 36-18, Tarbes, Carcassonne, 22-23, et Biarritz, 25, Aurillac, 28. Le match Perpignan-Dax a été reporté du fait que Dax est accédé à la Pro D2, enfin, et s'est maintenu sur tapis vert à cause de la non-montée de Lille pour cause de Soussou qui, soi-disant, n'était pas là. Donc Dax a vu ses matchs reportés. Deuxième journée, Mont-de-Marsan, Lyon 18-22, Montauban-Biarritz 29, Aurillac 40, Colomiers 10, Aix-en-Provence 17, Béziers 31, Carcassonne 9, Perpignan 38, Bourgoin-Albi 19-22, Bayonne 28, Narbonne 21, Dax Tarbes reporté pour les mêmes raisons. Troisième journée, donc nous avons Béziers contre Lyon 23-28, Perpignan 14, Mont-de-Marsan 9, Tarbes 28, Aix-en-Provence 9, Biarritz 9, Albi 20, Colomiers 31, Carcassonne 9, Narbonne 18, Bourgoin 13 et 28 pardon, entre Dax et Bayonne. Le match de Montauban-Aurillac a été décalé pour cause d'intempéries, le stade de Sapiac ayant souffert de la tempête qui s'est passée récemment sur le Tarn-et-Garonne. Donc, trois premières journées. On rappellera de tout d'abord. Alors, ce podcast était enregistré pendant la quatrième journée. On rappellera que la Pro D2 évolue par. Bloc de 4 matchs, donc 4 matchs, une semaine de vol, 4 matchs, ainsi de suite. Donc on notera que Lyon, qui est descendu de top 14, devant au classement, sans forcément briller, ça se voit par les scores, en plus il est aidé par un petit arbitrage, comme sur le match Béziers-Lyon. On voit aussi l'excellente performance d'Aurillac, qui était une équipe qui déjà l'année dernière avait montré de belles choses, mais qui était inconstant, un peu comme l'équipe de Tarbes, qui a su bien progresser pour devenir bien en avant. On notera aussi que toujours pas de victoire pour Aix-en-Provence. Et on notera aussi qu'Albi a perdu à la maison et a gagné deux fois à l'extérieur. Personne ne comprend. On notera aussi que Dax, en ayant fait qu'un match, se retrouve déjà mieux classé que certaines équipes. Parce qu'eux, ils ont gagné. Bon, le sommet déjà plus classé que Aix-en-Provence qui s'est tapé 3 matchs. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant du top 14 et de la Pro D2. Pour l'instant, les deux championnats ont l'air d'être assez resserrés. On verra comment ça évolue après la pause déjà. Il risque d'être costaud. Et puis, on reviendra dessus au fur et à mesure de la saison. Donc voilà, écoutez, je reviendrai d'ici un bon gros mois sur le podcast pour vous faire un petit récap de la Coupe du Monde. Ce sera probablement un petit peu plus court que d'habitude. même si c'est pas très long. Donc écoutez, je vais vous laisser avec une petite musique en vous espérant que ce podcast vous ait plu et qu'on se retrouve très bientôt. Donc voilà, c'est Gandalf81 sur Twitter. N'hésitez pas à me suivre si vous voulez suivre l'actualité de ce podcast et l'actualité du rugby en général. Écoutez, et bien à bientôt!
Marche avec les ciels et blancs pour atteindre le firmament. Voyou, non, pas question de renier l'étendard. Viens près du bar retrouver les fêtards. Dans la mêlée, on a l'espoir de leur en mettre plein la poire. Voyou gare aux yeux au beurre noir. Pour nous cette année, ce sera la gloire. Une nouvelle tribune pour nous enchanter. Demi-temps pour tout enflammer. La troisième pour nous enivrer. Toute une saison pour nous faire rêver. Toute une saison pour nous faire rêver. Toute une saison pour nous emporter. Toute une saison pour nous faire rêver. Toute une saison pour nous emporter. Semaine pour se préparer, pour refuser de se faire piétiner, à penser soigner les ailiers et remotiver nos piliers. Ah. Non, pas question. On a l'espoir de leur en mettre plein la poire. Voyou gare aux yeux au beurre noir. Pour nous cette année ce sera la gloire. Une nouvelle tribune pour nous enchanter. Demi-temps pour tout enflammer. La troisième pour nous enivrer. Toute une saison pour nous faire rêver. Toute une saison pour nous faire rêver. Toute une saison pour nous emporter. Toute une saison pour nous faire rêver. Toute une saison pour nous emporter. Rêver, toute une saison pour nous emporter, toute une saison pour nous faire rêver, toute une saison pour nous emporter, toute une saison pour nous faire rêver, toute une saison pour nous emporter, toute une saison pour nous faire rêver, toute une saison pour nous emporter, toute une saison pour nous faire rêver, toute une saison pour nous emporter, toute une saison pour nous faire rêver, toute une saison pour nous emporter.
Le firmament. 1, 2, 3, 4 et 1. Voyou!
Ah, mais on est bien rigolé.